Chapitre 15. Washington DC, samedi 20 décembre 1980. Saul Lasky resta immobile pendant 20 minutes à contempler la petite fille. Elle lui rendit son regard, immobile elle aussi, figée par le temps. Elle portait un chapeau de paille légèrement incliné sur sa tête et un tablier gris sur une robe blanche toute simple. Ses cheveux étaient blonds, ses yeux bleus. Elle avait les bras tendus et les mains jointes, exprimant toute la grâce maladroite de l'enfance. Quelqu'un s'arrêta devant lui, et Saul fit un pas de côté pour mieux voir le tableau. La petite fille au chapeau de paille continuait de fixer l'espace vide qu'il avait occupé. Saul ne savait pas pourquoi ce tableau l'émouvait à ce point. La plupart des œuvres de Marie Cassatt lui paraissaient trop sentimentales, un salmigondi de pastel flou, mais celle-ci l'avait fait pleurer la première fois qu'il avait visité la National Gallery presque 20 ans plus tôt. Et il ne venait jamais à Washington sans se rendre en pèlerinage devant la petite fille au chapeau de paille. Peut-être que ce visage poupin et ses yeux songeurs lui rappelaient sa sœur Stepha, morte du typhus pendant la guerre, en dépit de ses cheveux bien plus sombres et de ses yeux qui n'avaient rien de bleu. Saul se détourna du tableau. Chaque fois qu'il visitait ce musée, il se promettait d'en voir d'autres sections, de s'attarder un peu devant les œuvres d'art moderne, et chaque fois, il passait tout son temps devant la fillette. La prochaine fois, pensa-t-il. Il était plus d'une heure de l'après-midi, et le restaurant du musée commençait à se vider lorsque Saul y entra et fouilla les tables du regard. Il repéra tout de suite Aaron, assis dans un coin de la salle, près d'une plante verte. Saul adressa un signe de la main au jeune homme et le rejoignit.
« Bonjour, oncle Saul. »«
Bonjour, Aaron. »
Le neveu de Saul se leva et le serra dans ses bras. Saul sourit, saisit le garçon par les épaules et l'examina.
Non, ce n'était plus un garçon. Aaron aurait 26 ans en mars.
Ce n'était peut-être plus un garçon, mais il était encore mince, et Saul vit sur son visage le sourire de David, les muscles qui se retroussaient à la commissure de ses lèvres, même si c'étaient les yeux immenses de Rebecca qui le regardaient derrière les verres de ses lunettes. Sa peau sombre et ses pommettes saillantes étaient néanmoins celles du seul David, comme s'il en avait hérité par le simple fait de sa naissance sur le sol d'Israël. Aaron et son frère jumeau avaient 13 ans lorsque la guerre des 6 jours avait éclaté, et ils étaient encore petits pour leur âge. Saul, désirant se faire incorporer en tant que médecin, était arrivé 5 heures trop tard à l'aéroport de Tel Aviv. Mais il avait pu écouter Aaron et Isaac lui narrer par le menu les exploits d'Avner, leur frère aîné, capitaine dans l'aviation. Il avait également écouté les jumeaux lui raconter les hauts faits de leur cousin Chaim, qui avait conduit son bataillon sur les hauteurs du Golan. 2 ans plus tard, le jeune Avner était mort, abattu par un Sam égyptien, et Chaim avait été déchiqueté par une mine israélienne mal placée durant la guerre du Kippour. Aaron avait 18 ans cette année-là et souffrait encore de l'asthme qui le tourmentait depuis l'enfance. David avait usé de tous les moyens possibles et imaginables pour l'empêcher de s'engager. Aaron était bien résolu à devenir parachutiste ou commando comme son frère Isaac. Lorsque l'armée l'avait réformé en raison de son asthme et de sa myopie, il avait achevé ses études et joué sa dernière carte. Aaron avait prié son père, avait supplié son père d'utiliser ses contacts pour lui trouver un poste dans les services secrets du pays. Aaron était entré au Mossad en juin 1974. On ne l'orienta pas vers le service action. Il y avait trop de héros et d'ex-commandos dans les rangs des services secrets israéliens pour qu'on affecte à un tel rôle un jeune intellectuel menacé en permanence par la maladie. Comme le voulait l'usage, Aaron fut entraîné à l'autodéfense et au maniement des armes, apprenant à se servir du petit Beretta calibre 22 qui était l'arme préférée du Mossad à cette époque. Mais son domaine d'élection était la cryptographie. Après avoir passé 3 ans à Tel Aviv dans les transmissions et 1 an sur le terrain quelque part dans le Sinaï, Aaron avait été affecté à l'ambassade d'Israël à Washington. Le fait qu'il soit le fils de David Eshkol avait plaidé en sa faveur. «
Comment vas-tu, oncle Saul ?» demanda Aaron en hébreu.
« Très bien.
Parle en anglais, s'il te plaît. »
« Entendu. » Sa voix n'avait aucun accent.
« Comment vont ton père et ton frère ?»«
Encore mieux que la dernière fois qu'on s'est vus. Les médecins pensent que papa pourrait passer quelque temps à la ferme cet été. Isaac a été promu au grade de colonel. »
« Bien, bien. »
Saul regarda les 3 dossiers que son neveu avait posés sur la table. Il cherchait un moyen de revenir en arrière, d'obtenir les informations qu'Aaron allait lui fournir, sans avoir pour cela à l'entraîner dans son cauchemar. Comme s'il avait lu dans son esprit, Aaron se pencha en avant et murmura d'une voix insistante.
« Oncle Saul, dans quoi exactement es-tu impliqué ?»
Saul tika. 6 jours plus tôt, il avait appelé Aaron et lui avait demandé de lui procurer des informations sur William Borden et sur le sort de Francis Harrington. Il avait agi de façon stupide. Pendant des années, Saul avait évité de s'adresser à sa famille ou au contact de celle-ci, mais la disparition du jeune Harrington l'avait plongé dans l'angoisse, et il avait craint, en se rendant à Charleston, de n'obtenir par la suite aucune information sur Borden, sur l'Oberst. Aaron l'avait rappelé sur une ligne protégée et lui avait demandé
« Oncle Saul, ça a rapport avec ton colonel allemand, n'est-ce pas ?»
Saul ne l'avait pas nié. Toute la famille le savait obsédé par un mystérieux nazi qu'il avait rencontré dans les camps. « Tu sais que le Mossad n'opère jamais en territoire américain, n'est-ce pas ?» avait ajouté Aaron. Saul n'avait rien répondu à cela, mais son silence en disait long. Il avait travaillé aux côtés du père d'Aaron lorsque l'Irgun Zweilemi et le Hanaga étaient des mouvements illégaux et actifs, achetant des armes et des usines d'armement américaines qui étaient expédiées en Palestine en pièces détachées, pour être assemblées et prêtes à servir le jour où les armées arabes déferleraient sur les frontières de la jeune nation sioniste.
« D'accord, » avait dit finalement Aaron. « Je ferai mon possible. »
Saul scia une nouvelle fois et ôta ses lunettes pour les nettoyer avec une serviette de table.
« Cet homme, Borden, a excité ma curiosité. Francis est un de mes anciens étudiants. Il est allé à Los Angeles pour recueillir des renseignements sur cet individu. Sans doute une histoire de divorce, qui sait. Francis n'est pas revenu le jour prévu. Monsieur Borden est apparemment mort, et un de mes amis m'a demandé si je pouvais l'aider. Alors j'ai pensé à toi, Aaron. »
« Mouais. » Aaron fixa son oncle du regard, puis secoua la tête et soupira. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre ni les voir, puis il ouvrit le premier dossier.
« Lundi, je suis allé à Los Angeles. » « Tu as fait ça ?»
Saul était stupéfait. Il avait pensé que son neveu donnerait quelques coups de fil à Washington, qu'il utiliserait les ordinateurs sophistiqués de l'ambassade d'Israël, en particulier ceux du bureau qui abritait les 6 agents du Mossad, et qu'il jetterait peut-être un coup d'œil dans des dossiers secrets israéliens ou américains. Il n'aurait jamais cru que le garçon s'envolerait pour la côte ouest dès le lendemain. Aaron écarta son objection d'un geste.
« Pas de problème, » dit-il. « J'avais droit à plusieurs semaines de congé. Quand donc nous as-tu demandé quelque chose, oncle Saul ? Tu nous as toujours donné sans compter, et ce depuis mon enfance. C'est l'argent que tu nous as envoyé de New York qui a payé mes études à Haïfa, alors que nous aurions pu les financer sans problème. Pour une fois que tu me demandes quelque chose, je peux bien me remuer, non ?»
Saul se passa une main sur le front.
« Tu n'es pas James Bond, me dit, »
dit-il, employant le surnom donné à Aaron pendant son enfance.
« De plus, le Mossad n'opère jamais en territoire américain. »
Aaron n'eut aucune réaction.
« J'étais en vacances, oncle Saul. Tu veux savoir ce que j'ai fait pendant mes vacances, oui ou non ?»
Saul hocha la tête.
C'est là que logeait ton ami Monsieur Harrington, reprit Aaron en faisant glisser vers lui la photo en noir et blanc d'un hôtel de Beverly Hills. Saul examina l'image sans la toucher, puis la fit glisser vers son neveu. « Je n'ai pas pu apprendre grand-chose, » poursuivit celui-ci. « Monsieur Harrington est arrivé à l'hôtel le 8 décembre. Une serveuse se rappelle qu'un jeune homme roux, dont la description correspond à celle de Monsieur Harrington, a pris son petit déjeuner à la cafétéria de l'hôtel le matin du 9. Un portier croit se rappeler avoir vu un homme au volant d'une Datsun jaune, identique à celle louée par Harrington, sortir du parking de l'hôtel le mardi à 3 heures de l'après-midi. Il n'en était pas sûr. » Aaron fit glisser 2 feuilles de papier vers Saul. « Voici les photocopies de l'article paru dans la presse. À peine un entrefilet. Et du rapport de police. La Datsun a été retrouvée le mercredi 10, garée non loin de l'agence Hertz de l'aéroport. Hertz a finalement envoyé la facture à la mère de Harrington. La note d'hôtel, $329.48, a été réglée par une personne anonyme, au moyen d'un mandat que l'hôtel a reçu le lundi 15, le jour même de mon arrivée. L'enveloppe était postée de New York. Serais-tu par hasard au courant, oncle Saul ?» Saul le regarda sans répondre. « Je m'en doutais, » dit Aaron. Il referma le dossier. Ce qu'il y a d'étrange dans cette histoire, c'est que les 2 assistants à temps partiel de M. Harrington, Dennis Leland et Selby White, sont morts dans un accident de la route cette même semaine. Le vendredi 12 décembre, ils avaient quitté New York pour se rendre à Boston après avoir reçu un appel téléphonique longue distance. « Qu'y a-t-il, oncle Saul ?»«
Rien. »
« Tu as eu l'air vraiment malade pendant une seconde. Connaissais-tu ces 2 types ?» White était allé à Princeton avec Harrington. Il faisait partie des White de Yannisport. « Je ne les ai rencontrés qu'une fois. Continue, Aaron. »
Aaron regarda son oncle en plissant les yeux. Saul se rappela avoir vu cette même expression sur son visage d'enfant lorsqu'il doutait de la véracité des histoires fantastiques que lui racontait son oncle.
« Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais c'est du travail de professionnel, » dit Aaron. « Tout à fait dans les cordes du syndicat du crime américain, la nouvelle mafia. 3 meurtres, très propres. 2 cadavres dans une épave, aucune trace du camion qui leur a fait quitter la route. 1/3 corps disparu pour de bon. Mais... la question est la suivante. Quel lièvre Francis Harrington avait-il soulevé en Californie pour que les pros, s'il s'agit bien de la mafia, en reviennent à leur bonne vieille méthode pour l'éliminer? Et pourquoi les éliminer tous les 3? Leland et White avaient un emploi stable. Ils ne travaillaient pour l'agence de Harrington que pour se divertir durant les week-ends. Harrington a traité 3 affaires l'année dernière, dont 2 cas de divorce concernant des amis à lui. Quant au 3e cas, c'était celui d'un pauvre type que ses parents avaient abandonné il y a 48 ans et auquel Harrington n'a pu donner satisfaction puisqu'il n'a pas réussi à retrouver les parents en question.
« Où as-tu appris tout ça ?»
demanda Saul à voix basse.
« J'ai passé une soirée à interroger la secrétaire de Harrington après mon retour de Los Angeles, mercredi dernier.
« Je retire ce que j'ai dit, maudit. Il y a un peu de James Bond en toi. »
« Mouais. » Aaron regarda autour de lui. Le restaurant avait cessé de servir le déjeuner, et les tables se vidaient de plus en plus vite. Il restait assez de clients pour que la présence de Saul et d'Aaron ne paraisse pas déplacée, mais le plus proche se trouvait à 4 ou 5 mètres d'eux. Quelque part dehors, un enfant se mit à pleurer avec des accents de klaxon.
« T'as encore rien vu, oncle Saul ?»
dit Aaron dans son plus beau style cow-boy.
« Vas-y. »
À en croire sa secrétaire, Harrington a reçu plusieurs coups de fil d'un homme qui a refusé de s'identifier. La police voulait savoir qui était ce type. Elle leur a dit qu'elle n'en savait rien, et que Harrington n'avait gardé aucune trace de son enquête en cours, excepté quelques notes de frais. Quoi qu'il en soit, ce nouveau client a donné assez de travail à Harrington pour qu'il se sente obligé de faire appel à ses camarades de fac.
« Mouais, » fit Saul. Aaron sirota son café.
« Tu m'as dit que Harrington était un de tes anciens étudiants, oncle Saul. Il ne figure pas dans les registres de Columbia.
Il assistait à deux cours en tant qu'auditeur libre. Guerre et comportement humain et psychologie de l'agression. Ce n'est pas par manque d'intelligence que Francis a raté ses études à Princeton. C'était un élève brillant, mais qui se lassait vite. Mes cours ne le lassaient pas.
Continue, Maudie.
Aaron avait une expression déterminée qui rappela à Saul l'entêtement de David Eshkol lorsqu'il discutait de la validité de la guérilla à la lueur des étoiles dans sa ferme des environs de Tel Aviv.
La secrétaire a dit à la police que le client de Harrington était sans doute un juif. À l'en croire, elle reconnaît toujours les juifs à leur accent. Celui-ci semblait étranger, allemand, ou peut-être hongrois.
Né?
Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe, oncle Saul?
Pas maintenant, maudit. Je ne le sais pas exactement moi-même.
Aaron conserva son air buté. Il tapota les deux autres dossiers. Ils étaient plus épais que le premier.
J'ai là-dedans des trucs beaucoup plus dingues que l'impasse Harrington. Il me semble qu'un échange équitable s'impose.
Saul haussa légèrement les sourcils.
C'est une transaction, alors. Ce n'est plus un service.
Aaron soupira et ouvrit le deuxième dossier.
Borden, William D. Apparemment né le 8 août 1906 à Hubbard, Ohio. Mais il n'existe aucune trace de lui entre son certificat de naissance et un flot de cartes de sécurité sociale, permis de conduire, etc., émis à son nom en 1946. C'est le genre de détail qui attire d'ordinaire l'attention des ordinateurs du FBI. Mais personne ne semble s'être soucié de son cas. À mon avis, si on allait faire un tour dans les cimetières autour de Hubbard, du diable si je sais où se trouve ce patelin, on y trouverait une petite pierre tombale dressée en mémoire d'un bébé nommé Billy Borden, que les anges l'emmènent tout droit au paradis, etc., etc. En attendant, notre ami Borden semble être apparu subitement à Newark, New Jersey, début 46. Il s'est établi à New York l'année suivante. Quelle que soit sa véritable identité, il avait du fric. Il a fait partie des financiers occultes de Broadway durant les années 48 et 49. Il a fréquenté le haut du panier, mais sans ostentation. Du moins, je n'ai trouvé aucune mention de son nom dans les potins de l'époque, et pas un des vétérans du monde du spectacle encore en vie aujourd'hui ne se souvient de lui. Bref, Borden a déménagé à Los Angeles en 1950, a produit son premier film cette même année, et il n'a pas changé d'activité depuis. Il a un peu fait parler de lui durant les années 60. La faune de Hollywood l'appelait le Bosch, ou Big Bill Borden. Il a donné quelques fêtes, mais les flics n'ont jamais eu à intervenir pour calmer le jeu. Cet homme était un saint. Aucune amende, aucune contravention, rien. À moins qu'il n'ait eu assez d'influence pour faire disparaître toute trace de ses erreurs. Qu'en penses-tu, oncle Saul?
Qu'est-ce que tu as d'autre?
Rien.
Rien, excepté quelques potins de studio. Une photo du portail de Herr Borden à Bel Air. On ne peut pas voir la maison. Et les notices nécrologiques parues dans le LA Times et dans Variety après son accident d'avion de samedi dernier.
Puis-je les voir, s'il te plaît?
Lorsque Saul eut fini de lire les coupures de presse, Aaron lui demanda posément.
Est-ce que c'était ton allemand, oncle Saul? Ton Oberst?
Probablement.
C'est ce que je voulais savoir.
Et tu as envoyé Francis Harrington enquêter sur ce Borden quelques jours avant qu'il périsse dans un attentat.
Oui.
Et ton ancien étudiant et ses deux amis sont morts durant la même période de 3 jours.
C'est toi qui viens de m'apprendre la mort de Dennis et de Selby. Je ne pensais pas qu'il serait en danger.
Qui représentait un danger pour eux?
Honnêtement, je n'en sais rien pour l'instant.
Dis-moi ce que tu sais, oncle Saul. Peut-être pouvons-nous t'aider.
Nous ?
Lévi, Dan, Jack Cohen et M. Bergman.
Des gens de l'ambassade ?
Jack est mon supérieur, mais c'est aussi un ami. Dis-nous ce qui se passe et nous t'aiderons.
Non.
Tu ne peux rien me dire ou tu ne veux rien me dire ?
Saul regarda par-dessus son épaule.
Le restaurant va fermer dans quelques minutes. Si on allait ailleurs ?
Les lèvres d'Aaron se contractèrent.
Trois de ces personnes, le couple près de l'entrée et le jeune homme à la table voisine, sont des nôtres. Ils resteront ici tant que nous aurons besoin d'eux.
Tu leur as déjà tout raconté ?
Non, seulement à Lévi.
De toute façon, c'est lui qui a pris les photos.
Quelles photos ?
Aaron sortit une photographie du troisième dossier, le plus épais. Elle montrait un homme de petite taille, cheveux noirs, blouson et chemise à col ouvert, yeux sombres sous de lourdes paupières, bouche cruelle. Il était en train de traverser une rue, son blouson volant au vent.
« Qui est-ce ? » demanda Saul.
« Harrod. Tony Harrod. »
« L'associé de William Borden ?
Son nom était mentionné dans l'article de Variety. »
Aaron sortit deux nouvelles photographies du dossier. Harrod se trouvait devant la porte d'un garage, une carte de crédit à la main, apparemment prêt à l'insérer dans un petit panneau encastré dans le mur. Saul avait déjà vu des serrures électroniques similaires.
« Où cette photo a-t-elle été prise ? »
demanda-t-il.
« À Georgetown, il y a 4 jours. »
« Ici, à Georgetown ? »
Que diable faisait-il à Washington ?
Et que diable faisais-tu à le photographier ?
C'est Lévi qui l'a photographié, dit Aaron avec un sourire.
Lundi, j'ai assisté au service funèbre donné en l'honneur de M. Borden à Forest Lawns.
C'est Tony Harrod qui a prononcé son éloge.
D'après les quelques renseignements que j'ai pu recueillir, M. Harrod était très proche de ton M. Borden. Mardi, quand il s'est envolé pour Washington, je l'ai suivi. De toute façon, je devais rentrer chez moi.
Saul secoua la tête.
Tu l'as donc suivi jusqu'à Georgetown ?
Ça n'a pas été nécessaire, oncle Saul. J'avais téléphoné à Lévi et c'est lui qui l'a suivi depuis l'aéroport. Je l'ai rejoint un peu plus tard. C'est à ce moment-là que ces photos ont été prises. Je voulais te parler avant de les montrer à Dan ou à M. Bergman.
Saul regarda les photographies en plissant le front.
Je ne vois pas ce qu'elles peuvent avoir d'intéressant, dit-il. Cette adresse a-t-elle une importance quelconque ?
Non.
La maison a été louée à Bektronix, une filiale de HRL Industries.
Saul haussa les épaules.
C'est ça qui est important ?
Non, mais ceci l'est.
Il fit glisser 5 nouvelles photos sur la table.
Lévi avait pris son fourgon de la compagnie téléphonique Bell, dit Aaron d'un air satisfait. Il était en haut d'un poteau quand il les a photographiées alors qu'il sortait par l'allée.
Celle-ci est complètement couverte. Ces types n'ont eu qu'à la descendre, à franchir le portail, à monter dans leur limousine et à s'en aller. Les voisins ne pouvaient pas les voir. On ne pouvait même pas les voir depuis le bout de l'allée. C'était parfait.
Les photographies en noir et blanc montraient chaque homme en train de franchir la distance qui séparait le portail de la limousine. Les épreuves étaient grenues tant elles avaient été agrandies.
Saul les étudia avec soin, puis dit « Ces hommes me sont inconnus, maudit. »
Aaron se prit la tête dans les mains.
« Depuis combien de temps vis-tu dans ce pays, oncle Saul ?»
Comme Saul restait muet, Aaron désigna la photo d'un homme aux petits yeux, aux grosses bajoues et à la crinière blanche et ondulée.
« Cet homme est James Wayne Sutter. » Mieux connu de ses fidèles sous le nom de Révérend Jimmy Wayne.
Ça te dit quelque chose ?
Non, répondit Saul.
C'est un évangéliste de télé, dit Aaron.
Il a fait ses débuts en 1964 dans un drive-in reconverti en église,
à Dothan, Alabama. Et aujourd'hui, il dispose de son propre satellite, de sa propre chaîne câblée et d'un revenu annuel exonéré d'impôts évalué à 78 millions de dollars. Question politique, il est un peu plus à droite qu'Attila. Si le révérend Jimmy Wayne proclame que l'Union soviétique est l'instrument du diable, ce qu'il fait chaque jour sur le petit écran, il se trouve environ 12 millions de personnes pour crier « Alléluia ». Menahem Begin lui-même a fait du place, crétin. Une partie des dons faits à son église est convertie en armes acheminées vers Israël. Tout est bon quand il s'agit de sauver la Terre Sainte.
Ce n'est pas la première fois qu'Israël trafique avec ses intégristes d'extrême droite, dit Saul. C'est ça qui vous a excité, toi et ton ami Lévi? Peut-être que M. Aaron fait partie de ses ouailles?
Aaron était agité. Il rangea les photos de Harrod et de Sutter dans son dossier et sourit à la serveuse qui leur apportait du café. Le restaurant était presque vide. Lorsqu'elle se fut éloignée, Aaron dit d'une voix tendue « Jimmy Wayne Sutter est le cadet de nos soucis, oncle Saul. Est-ce que tu reconnais cet homme ?»
Il produisit la photographie d'un individu au visage mince, aux cheveux sombres et aux yeux profondément enfoncés dans les orbites.
Non.
Niemann Trask, proche conseiller de Kellogg, sénateur du Maine. Tu te rappelles? Kellogg a failli être choisi comme candidat à la vice-présidence l'été dernier.
Vraiment? Pour quel parti?
Aaron secoua la tête.
Oncle Saul, que fais-tu de tes journées pour ne rien savoir de ce qui se passe autour de toi?
Saul sourit.
Pas grand-chose. Je donne 3 cours magistraux par semaine. Je fais toujours partie du conseil d'administration de la fac, bien que je n'y sois plus obligé. J'ai un programme de recherche à la clinique. Je dois rendre mon 2e livre à mon éditeur pour le 6 janvier.
D'accord, d'accord.
Je fais au moins 12 heures de consultation par semaine à la clinique. Je me suis rendu à 4 séminaires en décembre, dont 2 en Europe. J'y ai prononcé des conférences.
D'accord.
La semaine dernière, par extraordinaire, je n'ai participé qu'à un seul débat. D'habitude, je consacre au moins 2 soirées à des réunions avec le doyen et avec le conseil d'éducation de l'État.
Bon, Maudit, pourquoi M. Trask est-il si important?
Parce que c'est l'un des conseillers du sénateur Kellogg.
Pas l'un des conseillers, le conseiller.
À en croire la rumeur, Kellogg ne va jamais aux toilettes sans avoir consulté Niemann Trask au préalable. De plus, Trask a été responsable du financement du parti pendant la dernière campagne électorale. On dit qu'il laisse un sillage de billets verts sur son passage.
Charmant. Et ce gentleman?
Saul tapota le front d'un homme qui ressemblait vaguement à Charlton Heston.
Joseph Philip Kepler. Ex numéro 3 de la CIA sous Lyndon Johnson. Ex-homme à tout faire du département d'État. Aujourd'hui consultant médiatique et animateur sur la chaîne PBS.
Oui, son visage me disait quelque chose.
Son émission passe le dimanche soir, non?
Feu croisé. Il invite des bureaucrates du gouvernement à seule fin de les embarrasser.
Celui-ci...
Aaron indiqua la photographie d'un homme chauve aux lèvres déformées par un rictus.
C'est Charles C. Colben, assistant spécial du directeur délégué du Federal Bureau of Investigations.
Voilà un titre bien intéressant.
Ça peut vouloir tout dire ou ne rien dire.
Dans son cas, ça veut dire beaucoup.
Colben est la seule personne un tant soit peu impliquée dans l'affaire du Watergate à ne pas s'être retrouvée en prison. C'était le contact de la Maison-Blanche au FBI. Certains prétendent que c'était aussi le maître à penser de Gordon Liddy. Non seulement il n'a pas été inculpé, mais il a vu son importance croître quand toutes les têtes ont eu fini de tomber.
Que signifie tout ceci, Maudit?
Une minute, oncle Saul. Nous avons gardé le meilleur pour la fin.
Aaron rangea ses photographies, excepté celle d'un homme mince et impeccablement vêtu, âgé d'une 60aine d'années.
Ses cheveux gris coiffés avec soin lui donnaient un air distingué. En dépit du grain de l'épreuve, Saul perçut chez lui un bronzage, une vêture et une autorité subliminale que seule la richesse pouvait conférer. C'est Arnold Barent. Aaron marqua une pause puis reprit. L'ami des présidents. Depuis Eisenhower, tous les chefs d'État de ce pays sont allés en vacances avec leur famille dans une des propriétés de Barent. Le père de Barent était dans l'acier et les chemins de fer. Un simple milliardaire. Un indigent comparé à Barent Junior et à ses centaines de milliards. Promène-toi au-dessus de Manhattan et choisis au hasard un gratte-ciel, n'importe lequel. Il y a plus d'une chance sur deux pour que l'une des compagnies installées au dernier étage appartienne à une société qui est elle-même une filiale d'un conglomérat administré par un consortium dont la majorité des parts appartient à C. Arnold Barent. Média, micropuce, studio de cinéma, pétrole, œuvre d'art, petit pot pour bébé, Barent est partout. Que veut dire le C? Personne n'en a la moindre idée. C. Arnold Senior ne l'a jamais révélé et son fils pas davantage. Quoi qu'il en soit, les services secrets sont enchantés quand le président et sa famille vont lui rendre visite. Les propriétés de Barent se trouvent en général sur des îles. Ils possèdent des îles dans le monde entier, oncle Saul. Et leur installation, sécurité, héliport, liaison satellite, etc., n'a rien à envier à celle de la Maison Blanche. Une fois par an, en général durant le mois de juin, l'Heritage West Foundation de Barent organise son camp d'été, une semaine de détente pour les hommes politiques les plus connus de l'Occident. On n'y est admis que sur invitation, et il est nécessaire pour cela d'être au moins chef de cabinet et en pleine ascension, ou d'avoir derrière soi une brillante carrière. À en croire certaines rumeurs, on y a vu d'anciens chanceliers d'Allemagne fédérale danser autour de feux de camp et chanter des chansons paillardes avec d'anciens secrétaires d'État américains et un ex-président ou deux. C'est un endroit où les grands de ce monde peuvent se déboutonner. C'est bien ainsi que l'on dit, oncle Saul.
Oui.
Saul regarda son neveu ranger la dernière de ses photographies.
Dis-moi ce que tout ceci signifie, Aaron. Pourquoi Tony Harrod est-il venu de Hollywood pour rencontrer en secret ces cinq personnages que je devrais connaître, et pour cause, et que je ne connais pas?
Aaron rangea les dossiers dans son attaché-case et se croisa les doigts, les lèvres pincées.
C'est à toi de me le dire, oncle Saul.
Un producteur et ancien nazi, du moins tu penses que c'est ton ancien nazi, est tué dans un accident d'avion, sans doute à cause d'une bombe. Tu envoies un étudiant jouer au détective à Hollywood, il enquête sur le producteur et il se fait enlever, presque certainement tué, ainsi que ses deux collègues amateurs. 8 jours plus tard, l'associé de ton producteur nazi, un homme qui, selon les rumeurs, a autant de charme qu'un charlatan doublé d'un violeur d'enfants, s'envole pour Washington et y rencontre le plus étrange assortiment de politicards et de magouilleurs depuis la première réunion du conseil exécutif de Yasser Arafat.
Que se passe-t-il, oncle Saul?
Saul ôta ses lunettes et en nettoya les verres. Il resta silencieux pendant une bonne minute.
Aaron attendit. Maudit, dit finalement Saul. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne m'intéressais qu'à Lowburst, à l'homme qui, à mon avis, est devenu William D. Borden. Je n'avais jamais entendu parler de ces hommes-là avant aujourd'hui. J'ignorais qui était Borden avant de voir sa photo dans le New York Times de dimanche. Et c'est seulement à ce moment-là que j'étais persuadé qu'il s'agissait de l'Oberst Wilhelm von Borchert, de la Waffen-SS.
Saul s'interrompit, remit ses lunettes et se palpa le front d'une main tremblante. Il savait qu'il devait apparaître à son neveu comme un vieil homme désemparé, mais ce n'était pas de la comédie de sa part.
« Oncle Saul, tu peux me dire ce qui ne va pas, » dit Aaron en hébreu. « Laisse-moi t'aider. »
Saul hocha la tête. Il sentit les larmes perler à ses yeux et il se détourna.
« Si cette histoire a une importance quelconque vis-à-vis d'Israël, » insista Aaron,
Si cela représente une menace pour nous, nous devons travailler ensemble, oncle Saul. »
Saul se redressa sur son siège.
Une menace.
Soudain, il revit son père à Helmno, portant le petit Joseph au milieu de la file d'hommes et de garçons nus et pâles, sentit à nouveau la brûlure de la gifle sur sa joue, son humiliation, et sut avec certitude, tout comme son père l'avait su, que la première, la seule des priorités était de sauver sa famille. Il prit la main d'Aaron dans les siennes.
« Maudit, tu dois me faire confiance. Je pense qu'il est en train de se produire plusieurs choses qui n'ont aucun rapport entre elles. Cet homme que je croyais être mon Oberst, ce n'était probablement pas lui. Francis Harrington était brillant mais instable. Il a renoncé à toutes ses responsabilités, tout comme il avait renoncé à ses études à Princeton il y a 3 ans. Je lui avais versé une confortable avance sur ses frais, afin qu'il puisse enquêter sur le passé de William Borden. Je suis sûr que la mère de Francis, ou sa secrétaire, ou sa petite amie, va recevoir d'un jour à l'autre une carte postale expédiée de Bora Bora ou d'un endroit de ce genre.
Oncle Saul, écoute-moi, maudit, je t'en prie.
Les amis de Francis, ils sont morts dans un accident.
Tu n'as jamais connu personne qui soit mort dans un accident.
Ton cousin Chaim, peut-être, qui est parti en jeep sur le Golan pour aller retrouver une fille qui n'était qu'une nafquée.
Oncle Saul, écoute-moi, maudit. Voilà que tu te prends pour James Bond, tout comme tu te prenais pour Superman quand tu étais petit. Tu te rappelles l'été où je suis venu vous voir? Tu avais 9 ans. Tu étais trop grand pour bondir du haut de la terrasse avec une serviette de bain autour du cou en guise de cape. Tu n'as pas pu jouer avec ton oncle préféré pendant tout l'été à cause de ta jambe dans le plâtre.
Aaron rougit et s'abîma dans la contemplation de ses mains.
Tes photos sont intéressantes, maudit. Mais que suggèrent-elles?
Une conspiration contre Jérusalem? Une cellule du Fatah d'Arafat se préparant à expédier des bombes sur la frontière?
Maudit, tu as vu des hommes de pouvoir pleins aux as retrouver un pornographe dans une ville de pouvoir pleine aux as.
Penses-tu qu'il s'agissait vraiment d'une rencontre secrète?
Tu l'as dit toi-même. C. Arnold Barent possède des îles et des maisons où le président lui-même est plus en sécurité que chez lui.
Ce n'était pas une rencontre publique, voilà tout.
Qui sait quel projet de cinéma cochon ces gens ont décidé de financer? Qui sait où passent les fonds de ton révérend Wayne Jim?
Jimmy Wayne, rectifia Aaron.
Peu importe.
Penses-tu vraiment que nous devrions déranger tes supérieurs à l'ambassade, faire intervenir de vrais agents et courir le risque de voir David mis au courant, malade comme il l'est en ce moment, à cause d'une méchouganeur de rencontre où on n'a probablement parlé que de cinéma porno?
Aaron était rouge comme une écrevisse.
Saul crut une seconde que le jeune homme allait se mettre à pleurer.
« D'accord, oncle Saul. Tu ne veux vraiment rien me dire. »
Saul posa une nouvelle fois la main sur celle de son neveu.
« Maudit, je te jure sur la tombe de ta mère que je t'ai dit tout ce que je comprenais de la situation. Je vais rester encore un jour ou deux à Washington. Peut-être aurai-je le temps de passer chez toi pour embrasser Déborah et les enfants, et nous en reparlerons. C'est de l'autre côté du fleuve, n'est-ce pas ?»«
Oui, à Alexandria. »
Pourquoi pas ce soir?
J'ai un rendez-vous, mais demain, j'aimerais bien un bon repas en famille.
Saul jeta un regard en direction des 3 Israéliens qui composaient avec eux toute la clientèle du restaurant.
Qu'allons-nous leur dire?
Ce fut au tour d'Aaron d'ajuster ses lunettes.
Seul Lévi est au courant des raisons de notre présence ici. De toute façon, nous devions aller déjeuner.
Aaron regarda Saul droit dans les yeux.
Est-ce que tu sais ce que tu fais, oncle Saul?
Oui.
Et pour le moment, je veux en faire le moins possible. Me détendre, profiter un peu de mes vacances et commencer à préparer mes cours de janvier.
Maudit, tu ne vas pas demander à l'un d'eux,
Saul inclina la tête en arrière,
de me suivre, n'est-ce pas?
Cela risquerait d'être fort embarrassant vis-à-vis de la collègue avec laquelle j'espère dîner ce soir.
Aaron eut un large sourire.
De toute façon, nous n'en aurions pas les moyens. Seul Lévy est un homme de terrain. Les deux autres travaillent avec moi aux chiffres.
Tous deux se levèrent.
Entendu pour demain, oncle Saul? Tu veux que je vienne te chercher? Non, j'ai loué une voiture. 6 heures, ça ira?
Un peu plus tôt, si ça t'est possible. Tu auras le temps de jouer avec les jumelles avant dîner.
4 heures et demie, alors.
Et nous reparlerons de tout ça.
Je te le promets.
Les deux hommes se dirigèrent vers l'escalier qui conduisait sous le dôme, s'embrassèrent et se séparèrent. Saul resta immobile devant la boutique du musée jusqu'à ce qu'il ait vu Harry, Barbara et Lévy, un homme trapu, s'éloigner ensemble. Puis il remonta lentement vers la section des impressionnistes. La petite fille au chapeau de paille l'attendait toujours, le regardait toujours de cet air un peu surpris, un peu intrigué, un peu blessé, qui ne manquait jamais de l'émouvoir. Saul resta là un long moment, pensant à la famille, à la vengeance et à la peur. Il se surprit à se demander s'il était juste, s'il était seulement raisonnable, d'impliquer deux goïms dans un combat qui ne pourrait jamais être le leur. Il décida de retourner à son hôtel, de prendre une bonne douche, bien longue et bien chaude, et de lire le nouveau livre de Mortimer Adler. Ensuite, lorsque le tarif du soir entrerait en vigueur, il appellerait Charleston pour parler à Nathalie ou au shérif, si possible aux deux. Il leur dirait que son rendez-vous s'était bien passé, qu'il savait à présent que le producteur décédé dans l'avion de Charleston n'était pas le colonel allemand qui hantait ses cauchemars. Il leur avouerait qu'il avait été fatigué ces derniers temps, et les laisserait tirer leurs propres conclusions au sujet de son analyse de Nina Drayton et des événements de Charleston. Saul était toujours planté devant la petite fille au chapeau de paille, perdue dans ses pensées, lorsqu'une voix de basse dit dans son dos
« C'est un très joli tableau, n'est-ce pas ?
Quelle tristesse que la fillette qui a posé pour le peintre soit aujourd'hui morte et son cadavre rongé par les vers. »
Saul fit volte-face.
Francis Harrington se tenait devant lui, les yeux brillants d'une lueur étrange, le visage aussi pâle qu'un masque mortuaire. Ses lèvres molles tressautèrent, comme tirées par des crochets, jusqu'à ce qu'un rictus dévoile ses dents en une grotesque parodie de sourire. Ses bras se levèrent, comme pour étreindre Saul ou comme pour l'engloutir.
« Guten Tag, mein alter Freund !» dit la chose qui avait été Francis Harrington.
« Wie geht's, mein kleiner Bauer ?»«
Mon petit pion préféré ?»«